Nous allons commencer notre prédication d'aujourd'hui. Ça va être dans Matthieu 5, versets 13 à 16. Je vais demander à notre frère Gisley de venir devant, prendre le micro et lire pour nous Matthieu 5, 13 à 16.
Matthieu 5, versets 13 à 16. Je lis la parole de Dieu. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils attribuent la gloire à votre Père céleste. Amen.
Amen. Merci beaucoup pour la lecture. Aujourd'hui, mon message, c'est un message que j'ai intitulé Soyez le sel et la lumière de la terre. Sans doute, c'est un message que nous avons entendu plusieurs fois. Je ne doute pas de ça. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'aura mis encore à cœur pour vous le partager parce que vous savez que on dit que la répétition est la mère de la science, n'est-ce pas? Donc, le Seigneur a voulu que on revoie encore ce que il veut nous dire dans son message aujourd'hui. Et je sais que chaque fois, même quand vous lisez chez vous, chaque fois vous pouvez relire le message et le Seigneur vous inspire différemment. Selon ce qu'il veut vous enseigner ce jour-là. Alors, pour commencer, vous voyez. Avant le texte que nous venons de lire, Jésus a expliqué, c'était le début de son ministère, si je peux le dire ainsi. Il venait d'arriver, il venait de commencer son ministère. Et pour commencer, il a voulu, je dirais, expliquer une chose très importante. Parce qu'il parlait souvent du royaume de Dieu, du royaume des cieux, et c'était quelque chose qui n'était pas familier aux gens de cette époque-là. Mais comme il a nommé comme une nouvelle, quelque chose qui est nouveau, il a failli expliquer à quoi ressemble son royaume, qui sont les personnes qui sont dignes d'y être. C'est pour cela que dans le texte qui commence, il parle de béatitude, de ce qu'on appelle béatitude. Il parle surtout de traits de personnages qui sont dignes du royaume des cieux. Je ne veux pas aller en détail, mais vous savez, il a dit errer, 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 errer. C'est-à-dire, ce sont des personnages. Il essaie de décrire des personnages qui sont dignes vraiment de son nouveau royaume qui était en train d'enseigner. Donc, c'est dans son discours, bien sûr, le premier que Jésus a fait. Il a donné les principes de vie dans son royaume. Donc, dans les béatitudes que je vous fais mention, ma mention, font état du caractère du peuple de Dieu. C'est ce que nous devons attendre de ce qui fait profession de croire au Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'est tout ce qu'il a dit, nous-mêmes qui prétendons, qui sont croyants aujourd'hui, c'est des choses que nous devons avoir pour hériter son royaume. Mais encore, en dehors des bénédictions personnelles qui en découlent, l'enfant de Dieu est un témoignage dans le monde ayant une influence certaine. Donc, je vais introduire ce petit texte que Jésus vient de nous lire, mais vous allez voir que Jésus voulait apporter comme un message, comme quoi être un enfant de Dieu, être un croyant, ça devrait apporter changement dans la société où on est, où on se trouve. Donc la foi de Dieu devait être un témoignage dans le monde, là où il est. C'est pour cela qu'il a voulu utiliser, on appelle ça parabole, ou bien il a voulu exprimer son idée en utilisant les deux choses qui étaient vraiment très importantes à cette époque-là. À cette époque-là, même je vais en parler, même aujourd'hui, c'est toujours important. Il a utilisé le sol et la lumière comme étant les choses vraiment qui étaient importantes à cette époque, mais il a utilisé ces deux éléments pour demander, pour encourager les croyants, ou bien ceux qui voulaient le suivre, d'être comme, d'avoir ces traits, comme nous allons voir ces deux éléments, ou quand même les traits des propriétaires, qui fait que on les recherche. Jésus allait encourager les gens qui voulaient le suivre, qui voulaient embarquer dans son ministère, qui souhaitaient vivre dans le royaume des cieux, d'être d'abord des témoignages là où ils sont, mais en étant des témoignages, d'avoir aussi le trait, les propriétaires, les propriétés différentes des autres, qui fera que les gens de dehors viendra vers eux pour chercher, bien sûr, ces choses qu'ils voient, qui sont différentes chez eux. Alors, pour comprendre le lien que Jésus fait du sang avec l'enfant de Dieu, j'ai voulu qu'on regarde un peu l'importance à cette époque de Jésus, l'importance du sang. Et si vous regardez, même si vous lisez dans les documents, c'est des choses documentées, ils disent que le sel peut être un des minéraux les plus utiles aux hommes, non seulement à cette époque-là de Jésus, mais même aujourd'hui. Donc, il possède des propriétés très étendues, dont on a estimé à plus de 14 000 usages dans des domaines très variés. Donc, c'est des recherches que vous pouvez trouver. Mais pour vous dire que le sel depuis le début, depuis même la création, a été un élément très utile dans la société, qui fait que quand on compte son utilité, son usage, ça peut aller même à plus de 14 000 usages dans les domaines variés. Donc, vous savez que c'est pas seulement pour manger, c'est dans plein de domaines, dans plein de choses. Alors, du temps de Jésus, le sel était utilisé principalement pour, bien sûr, la nourriture, pour manger. Et comme le temps n'était pas encore moderne, donc la technologie n'était pas encore là, le sel aussi était utilisé pour empêcher que les aliments puissent pourrir. Donc c'était un outil de protection des aliments. Donc comme il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de congélateur, le sel vraiment était quelque chose qu'on utilisait pour conserver les aliments pendant une longue période. Aujourd'hui même, ça je parlais du temps de Jésus, c'est pour cela que je pense qu'il a choisi de sortir de cet élément comme étant quelque chose qu'il a réutilisé pour montrer aux gens, à ses disciples, combien ils ont besoin d'avoir les qualités comme ce que le sel a, ce qu'on cherche dans le sel. Donc, c'est des choses que Jésus voulait que ce qui le suit, et en fait que le monde vienne le chercher, c'est très différent, bien sûr, des autres. Même aujourd'hui, le sel a son importance. Vous savez, c'est quelque chose qu'on mange toujours. On peut passer une semaine sans manger de la viande, par exemple, ou bien de la pomme de terre. Mais je ne pense pas, à moins que vous avez un problème de maladie, ça, j'insiste, à cause de problèmes de santé, et que le docteur vous a empêché de manger du sel. Sinon, le sel, c'est quelque chose à chaque repas, que ça soit liquide, que ça soit solide, à chaque repas, le sel est là. Et même, moi j'aime beaucoup le sel, vous m'excuserez, mais et ma femme s'est rencontrée, ma femme est quand même, étant infirmière, elle connaît plus que, bon, les désavantages de consommer plus de sel, mais je dis à chaque fois, quand vous amenez la nourriture, ajoutez pour moi. Parce que moi, je n'arrive pas vraiment à manger. J'ai besoin d'un peu plus par rapport aux autres à la maison. Mais ça peut peut-être être le cas pour les autres. Je sais que à chaque fois que tu goûtes, la première chose, tu veux avoir cette saveur. Tu veux savoir. Avant de dire même que la nourriture n'est pas bonne, mais tu vas dire, ah, mais il n'y a pas du sel dans cette nourriture. C'est quelque chose qu'on va directement remarquer dès que tu commences à manger. Alors, vous comprenez que c'est toujours important. Du sel a été important à l'époque de Jésus, même aujourd'hui aussi. Ça a gardé son importance. Et si beaucoup sont même des chimistes, vous savez combien ça a son importance. Nous, des fois, on parle du sel de cuisine que nous voyons souvent, mais il y a pas mal d'autres endroits où ils utilisent du sel. Donc, pour dire qu'il a vraiment pas mal d'importance dans la vie, dans notre vie de tous les jours. Alors, quand Jésus parlait de ça, il voulait leur montrer, il savait déjà comment peut-être manger la nourriture qui n'a pas du sel, que c'est même pas beau, ça n'a pas de goût, ça n'a pas de saveur. Alors, pour faire un lien avec ce qu'il demandait, c'est comme s'il demandait aux gens, alors, d'avoir sur quelque chose. Et que si le monde arrive, le monde, je veux dire, l'entourage, quand ils arrivent, il va tester, il va savourer, il va avoir cette saveur que nous avons quand nous consommons du sel. Ce fait que nous demandons toujours, nous mangeons toujours, parce qu'il y a. Il y a le saveur. Même Jésus a dit même quelque chose qui peut rendre le sel inutile, c'est une fois qu'il a perdu sa saveur. Donc, une fois que le sel a perdu sa saveur, il a perdu en même temps sa valeur. Donc, il a dit même que on n'a plus besoin de ça. Donc, il n'a qu'à jeter, il n'a qu'à jeter, et puis on piétine dessus, on marche dessus, parce il n'a plus de valeur. Donc, c'est-à-dire que malgré son utilité, mais il peut y arriver un cas où on n'en aura plus besoin. C'est seulement une fois qu'il va perdre sa saveur. Alors, souvenons-nous que Dieu nous a sauvés pour que nous soyons une influence pour Dieu dans ce monde. Comme l'apôtre Paul l'a écrit quelque part, nous sommes les ambassadeurs de Christ dans le monde. Pour que nous apportions la saveur de Dieu au milieu de ceux qui ne reconnaissent pas. Donc, l'objectif de Dieu, de Jésus, pour venir mourir à la croix, oui, c'était pour sauver l'humanité, mais c'était plus parce qu'il n'allait pas rester prêcher, évangéliser, mais il nous a recommandé, il nous a fait des ambassadeurs, il a mis en nous ses traits pour que même après son départ, le monde continue à venir chercher Jésus à travers nous, à travers nous. Et c'est pourquoi, pour ce faire, il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit qui produit en nous le fruit de l'Esprit. Vous savez, on parle souvent des fruits de l'Esprit dans Galates 5, 22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance et pas mal d'autres. Ça, je dirais, je peux considérer ça comme cette saveur que quand le sel, qui fait que nous, à chaque fois que vous vous asseyez à table, vous recherchez du sel. Parce il y a à l'intérieur du sel, il y a quelque chose. Alors, le Saint-Esprit en nous fait produire des fruits que le monde a besoin, que le monde recherche. Ce qui fait que les gens autour de nous peuvent avoir envie de venir, même goûter ce qui est à nous. Vous savez que l'amour, ce n'est pas quelque chose qui existe encore, qui est répandu. L'amour, oui. L'amour de ta famille, c'est facile. L'amour de tes enfants, mais l'amour déjà de tout le monde, ce n'est pas quelque chose qu'on peut qu'on peut expérimenter à tous les jours. Mais quand le Saint-Esprit produise, met ce fruit en nous et que les gens voient, même les gens qui n'ont pas d'amis, mais toi tu y arrives, tu leur montres cet amour, ah, ils vont se demander, mais c'est quoi? C'est quoi cette personne? Moi, je me considérais comme une personne rejetée, il n'y a personne d'autre, tu veux m'approcher, tu veux me parler, mais lui là, il m'approche, il me parle. Mais c'est pourquoi? Donc la personne est là à cause de ce flux, à cause de cette saveur d'amour que tu as produit, il va venir toi. Peut-être à la longue, au fur et à mesure que vous marchez ensemble, vous causez ensemble, vous échangez, il va te demander, mais pourquoi toi, tu as un tel amour? Et là, on va profiter de cette occasion pour lui dire que ce n'est pas nous. Nous autres, on est comme les autres. On est égoïste comme tout le monde. Mais parce que Jésus a mis en nous le fruit de l'Esprit Saint qui produit les fruits, voilà pourquoi j'aime. Je suis poussé à aimer tout le monde. Amen. Il n'y a pas mal, il y a la joie. La joie, pendant que peut-être les autres pleurent, pendant que les autres sont malheureux, et que peut-être vous vous retrouvez dans la même situation où vous étiez censé peut-être de pleurer, mais ils te voient dans la joie. Ils se demandent, mais c'est quoi ça? Toi, tu es bizarre. Toi, tu es comment? Pourquoi tu... Mais c'est ça les traits, c'est ça les propriétés que le Saint-Esprit met à nous comme les propriétés du ciel. Et je suis sûr que ces gens-là, à un moment donné, ils viendront nous te voir. Mais on va chercher au moins un soulagement quand ils sont malheureux. Retrouver leur soulagement auprès de toi. Parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Il y a la paix, la patience. Je ne veux pas quand même détailler tout, mais c'était pour vous dire que les propriétés qu'a le sol, qu'a du sol, pour l'aimer, pour l'utiliser à tous les jours, c'est ça que le Seigneur met en nous pour que le monde ait besoin de nous, pour que le monde vienne rechercher ce qui est en nous. Jésus a parlé aussi de lumière. La lumière aussi, nous savons son importance dans le quotidien, dans notre quotidien. Et peut-être si vous n'avez pas connu la lumière, je dirais l'ombre, l'obscurité, des fois c'est difficile à vous demander de détailler l'importance de la lumière. Tu peux quand même en trouver, mais c'est pas comme la personne qui a vécu pendant longtemps dans l'ombre, dans l'obscurité. Hein? J'en suis témoin. Donc, on connaît l'importance de la lumière. Comme même à l'époque de Jésus, la lumière a eu toujours son importance dans la vie de citoyens. Peut-être je donne quelques utilités de la lumière dans le quotidien. Elle nous permet de voir clair, de marcher librement, sans crainte. Et vous savez, il y a un moment où même quand vous sortez de Montréal un peu plus loin, dans des régions, vous allez voir que l'éclairage public commence à diminuer. Vous voyez comment c'est vraiment difficile de conduire dans cette zone-là. C'est difficile. Et vous marchez, donc vous pouvez pas rouler, même si c'est l'autoroute, vous pouvez pas rouler à 100 km parce que il n'y a pas la lumière. Mais quand il y a la lumière tout au long, donc ça vous permet de. Donc c'est comme si c'est le jour. Vous roulez comme vous, mais vous ressemble et vous êtes à l'aise. Donc la lumière nous donne en quelque sorte la sécurité. Donc la sécurité, quand même vous marchez à la maison, vous n'avez pas peur de cogner quelque chose parce que vous voyez clair. Donc ça, c'est l'importance de la lumière. On peut en avoir beaucoup, plein d'autres, parce que c'est quelque chose quand même. Tantôt quand j'étais en bas, Clémentine est venue me dire, mais nous, on n'a pas la lumière devant la scène ici. Apparemment, il manquait quelque chose. Parce que peut-être on n'allait pas le voir une fois que ces deux lumières n'étaient pas encore allumées. On n'allait pas le voir clair comme on le voyait après avoir arrimé. Donc, la rimure aussi, c'est quelque chose de très important dans le quotidien de tous les citoyens. Mais pourquoi Jésus alors apporte cet exemple au début, juste au début de son ministère? Lui-même, il a dit, je suis la lumière. On va lire ça peut-être. Je suis la lumière. Et puis la lumière arrive pour chasser l'ombre, pour chasser l'obscurité. Pour que ce qui vivait dans l'obscurité maintenant voie la lumière. Mais pourquoi Jésus a fait un lieu de deux, le feu et la lumière? Nous sommes d'accord que chacun a son importance capitale dans la vie de tout un chacun, dans notre quotidien. Mais pourquoi le feu met à côté la lumière? Quand je méditais la parole, j'ai compris un lien entre ces deux éléments. Oui, le monde a besoin de venir vers nous pour goûter la saveur que Jésus a mis à nous. Mais ils doivent voir. Nous devons émettre de la lumière pour que le monde nous voie. Et j'ai vu pourquoi Jésus a commencé par du sel. Parce que s'il avait commencé, là j'interprète, s'il avait commencé par la lumière et que les gens viennent à suivre la lumière, mais arrivés ne trouvent pas la saveur, ne trouvent pas du sel, ça n'aurait pas de sens. Mais il a commencé par dire que soyez le sel. Ayez tous ces traits, toutes ces propriétés du sel. Et après, vous brillez, vous émettez cette lumière, que le monde voie et vienne vers vous pour goûter, pour savourer, pour, je dirais, pour goûter ce qui est en vous. J'ai compris que c'est quand même, il y a une certaine logique de parler d'abord du sel et par la suite. La lumière, pour que les gens viennent vers nous et que nous puissions les éclairer et même qu'ils puissent goûter aussi ce que Jésus a mis en nous, les fruits de l'esprit dont je vous ai parlé tantôt. Et je veux vous rappeler que c'est pas nous la lumière, nous ne sommes pas la lumière, non. Jésus lui-même a dit, je suis la lumière. Car, en d'autres mots, si Jésus demandait à ceux qui le suivaient, à ses disciples, d'être la lumière, en quelque sorte, c'était comme leur dire, accueillez-moi en vous, acceptez-moi en vous, parce que moi, je suis la lumière. Une fois en vous, je vais briller. Amen. Parce que nous, nous sommes pas, nous sommes les humains comme tant d'autres. Mais c'est comme, j'ai pris l'exemple, la majorité, bon, j'estime que oui, on connaît, ou bien on a connu ça à l'école. À l'école, on nous enseignait que la lune ne brille pas, vous savez. La lune n'a pas de lumière. Les physiciens, ou bien les autres, la lune ne brille pas, il n'a pas de lumière. Par contre, c'est le soleil qui a la lumière. Alors, qu'est-ce qui fait que la lune nous éclaire? C'est que la lune reflète la lumière qui reçoit du soleil et nous voyons. C'est-à-dire, c'est comme une émetteur. Donc, la lumière tape la lune nous reflètera la lumière. J'ai pris cette analogie pour vous dire que nous ne sommes pas, nous n'avons pas la lumière, nous ne sommes même pas capables. Mais Jésus, en nous qui est la lumière, nous utilisons cette lumière qui est en nous, Jésus, nous reflétons Jésus qui est en nous. Amen. Nous transmettons Jésus qui est à nous. C'est pour cela qu'il dit, je suis la lumière. Et il encourage déjà à être cette lumière, à avoir cette qualité de lumière. Donc, pour pouvoir briller et que si le monde qui nous entoure vienne et qu'il trouve ce dont il a besoin, ce n'est que Jésus à nous. Oui, il a dit, oui, je suis la lumière. Vous pouvez lire ça dans Jean 8, 12. Là où il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est dans Jean 8, 12. Alors, pour terminer, pour conclure, nous avons beaucoup plein de choses. Jésus a même dit, À quoi bon d'armer ni l'ignorer, puis vous le mettez sous quelque chose, donc vous la cachez. Ça n'aurait pas de sens. Et vous savez, quelque chose qui cache l'armure n'a pas besoin d'être aussi gras. Même une petite chose. Un buisson, c'était comme il disait, il considérait, c'était comme une unité de mesure à l'époque. À l'époque, donc on utilisait pour mesurer la semence. Mais c'est pas quelque chose de gras. Mais il utilisait ça pour montrer que juste une petite chose peut couvrir, peut cacher la lumière. Ça veut dire que dans la vie aussi, que dans nos quotidiens, il y a beaucoup, plein de choses qui peuvent empêcher notre lumière de briller. Il y a pas mal dans le quotidien. Il y a pas mal de choses qui peuvent faire à ce que nous perdons notre saveur que le monde a besoin. Donc, veillons à ce que rien ne soit permis dans notre vie qui puisse nuire à notre témoignage. Je sais que c'est le Seigneur qui nous rend capable d'être comme ça, d'avoir tout ce dont je vous ai partagé, c'est grâce à Jésus, grâce au Saint-Esprit que nous sommes capables de le faire, ou bien de l'être. Parce que il dit, soyez. Donc, si Jésus n'est pas là, si nous n'acceptons pas Jésus, il y aura rien de bon, de qualité à nous. Mais accepter le Seigneur, c'est lui qui peut nous donner cette capacité de donner la saveur au monde, de l'illuminer, de briller pour le monde, afin que les gens sortent de leurs ténèbres, de leur obscurité, et puissent s'ouvrir au Seigneur. Pour terminer, nous allons prier. Je veux prier et je disais que le Seigneur peut vous dire plus de ce que j'ai pu dire. Et nous avons son Saint-Esprit. Et j'insiste que tout ce que je viens de vous partager, c'est par le Saint-Esprit, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes capables de l'être ou de le faire. Je veux prier et vous allez aussi en même temps prier pour demander au Seigneur qu'il nous aide. Parce qu'il nous a demandé quelque chose de très, très difficile. Être le seul là où tout est amer. Tout est amer, mais il nous demande d'être discerné. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons te dire merci pour aujourd'hui. C'est toi qui as créé cette journée et tu as voulu que ce message passe à travers nos oreilles, Seigneur, aujourd'hui. Nous avons entendu, nous avons écouté. Nous avons compris ce que tu nous demandes, ce que tu demandais même à tes premiers disciples, à tes premiers, Seigneur, tes premiers, je dirais, fans qui voulaient, qui souhaitaient te suivre, tu leur demandais d'être comme d'être la lumière et le sel pour qu'ils puissent influencer le monde. La même chose, Seigneur, que tu demandais, c'est ce que tu nous demandes aujourd'hui. Et nous sommes conscients qu'avoir ces qualités, ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est le fruit de l'Esprit en nous. Je prie que, Seigneur, tu puisses aider toute personne qui a écouté ce message ou qui va le suivre ultérieurement. Que, Seigneur, ils puissent comprendre ce que le Saint-Esprit voulait leur dire. Pour qu'ils puissent, Seigneur, comprendre leur utilité dans le monde de ténèbres, dans le monde où les gens marchent dans le ténèbre. Dans le monde qui a perdu sa saveur, nous avons besoin d'avoir cette saveur. Nous prions que le Saint-Esprit nous accompagne pour pouvoir, Seigneur, être tel que tu le souhaites, tel que Seigneur, tu nous le demandes. Merci, papa. Merci d'aider les plus petits, les adultes, à être tel que tu le souhaites. Merci, papa. Accompagne ton peuple et je prie que Seigneur, la bénédiction de ta part soit sur nos vies depuis maintenant jusqu'à ce que tu reviennes prendre ton Église, nous prendre auprès de toi. Sois avec tout et chacun tout au long de la semaine. Je prie que chaque personne, Seigneur, puisse expérimenter ton amour dans cette semaine qui vient et même dans toute sa vie qui lui reste. Merci, Papa. C'est ainsi que je prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.